Aujourd'hui, discussion d'ingénieur avec Nicolas, ingénieur stratégie et opération depuis 3 ans chez AWS Amazon. Il va nous parler de son quotidien, de sa journée typique, de ses missions, puis des spécificités d'Amazon pour un ingénieur, que ce soit les compétences nécessaires, requises pour travailler là-bas, et les modus operandi qui sont différents dans cette entreprise. Enfin, nous reviendrons sur son parcours, notamment sa carrière en conseil en stratégie à Ernst & Young et une erreur de parcours qu'il a fait après Central Supélec lorsqu'il a été diplômé. Nous finirons avec ses conseils pour de jeunes ingénieurs. Bref, un podcast particulièrement intéressant. On prend du temps au départ pour bien expliquer le travail et les missions de Nicolas. Et ensuite, c'est un vrai régal. Nico, il est honnête, transparent, il parle sans langue de bois. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir voir les coulisses d'une entreprise dans la tech de cette façon. Ainsi que les choix de parcours qu'il a fait, ça aussi bien sûr. Un grand merci donc à lui pour son authenticité, pour son temps et sa disponibilité. Et si vous aimez ce type de contenu, vous connaissez la chanson, un like, un commentaire, ça aide énormément pour les algorithmes. Merci à tous ceux qui m'aident dans cette aventure et qui, bah, justement, participent à l'aventure de ce podcast Discussion d'ingénieurs. Bonne écoute. Nicolas, qu'est-ce que tu fais actuellement ?
Actuellement, je travaille chez AWS, qui est la division cloud d'Amazon. Je suis en charge de la stratégie et des opérations pour un segment qui s'appelle New Customers Acquisition. Donc, globalement, toute la stratégie go-to-market qui permet d'acquérir les clients de demain d'AWS. Mon rôle comporte un peu deux volets. D'une part, je suis un peu comme un consultant en stratégie en interne, qui va être dédié à ce segment, en fait, donc je vais conduire des analyses, je vais construire une stratégie, d'une part opérationnelle sur un an et d'autre part un peu plus long terme sur 3 ans pour déterminer comment on va articuler différentes équipes commerciales, du marketing, des centres d'appel pour essayer de générer, en fait, un pipeline de nouveaux clients pour AWS. Et d'autre part, une partie de mon rôle va être d'intervenir comme chef de cabinet pour une des membres du COMEX et MEIA d'AWS. Donc, en fait, l'aider un petit peu dans son activité quotidienne, l'aider à faire les analyses dont elle a besoin pour mener son business, l'aider à organiser ses équipes, la conseiller un petit peu sur tous les aspects de son activité. Donc, voilà un peu le résumé de ce que je fais aujourd'hui.
D'accord. Alors, sur certains des termes, je vais revenir sur les derniers. J'ai plusieurs questions. Donc, chef de cabinet, si je dois le rephraser dans... Je ne connaissais pas l'expression avant qu'on en parle. Est-ce que c'est équivalent de bras droit d'une personne qui elle-même est donc au COMEX? Et COMEX, c'est... COMEX, c'est... C'est quoi déjà la définition en français de COMEX?
Comité exécutif. Comité exécutif, ouais. C'est 6-8, si tu veux.
Ouais. Les personnes qui décident l'orientation de la boîte. Et donc, toi, tu vas être le bras droit d'une de ces personnes sur des projets qu'elle peut avoir.
C'est ça, ouais. C'est aussi, en anglais, ce qu'ils appellent des fois chief of staff ou...
Ah ouais, c'est marrant parce que chief of staff, j'aurais pensé que c'était plus un rôle RH, enfin, même s'il y a peut-être une compétence RH dans ce que tu fais par rapport aux missions pour elle.
Pas du tout. Non, pas de ouais. C'est ou je perds pas, je sais pas, il y a plusieurs façons de le mentionner, mais ouais.
D'accord. Et quand tu dis que tu fais ces deux volets, donc un peu du conseil en stratégie et opération et chef de cabinet, tu es dans une équipe pour faire ça typiquement sur la vision en stratégie 1, 3 ans, le commercial marketing, ou tu es tout seul à le faire?
Ouais, c'est une bonne question. En fait, je suis dans une équipe, en fait, stratégie EMEA. Et en fait, dans mon équipe, chaque membre a en charge, en fait, un segment de l'activité. Donc moi, par exemple, comme j'ai mentionné, c'est New Customer Acquisition. Mais j'ai d'autres collègues qui vont s'occuper d'autres segments. Donc par exemple, les Digital Native Business, ou par exemple les éditeurs de logiciels ou les entreprises, ce qu'on appelle Game Tech, donc tous les studios de développement de jeux. Et en fait, chacun va être en charge sur ce périmètre de la définition de la stratégie. Et on va tous avoir ce double rôle, donc définition de la stratégie et support du membre du COMEX qui va en fait diriger ce segment au niveau EMEA. Donc, c'est un peu spécial parce qu'au final, les membres de mon équipe, je ne travaille pas tellement au jour le jour avec eux. Mais on va faire beaucoup de partage de bonnes pratiques sur comment on va développer nos stratégies, un petit peu les frameworks qui vont nous aider en fait à développer ce qu'on produit chaque jour. Après, de manière quotidienne, je travaille plutôt en fait avec les équipes, je pense qu'on peut en dire les équipes métiers, qui vont être vraiment la direction du business au niveau
meilleur. Pour faire une métaphore vraiment très très simple, on pardonnera la simplicité de la métaphore même. C'est un peu comme si ton équipe, en fait, c'est comme si vous étiez différents professeurs pour une classe. Il n'y a pas de notion d'enseignement, mais plutôt une notion de travail avec. Les autres profs, vous travaillez ensemble pour vous faire en sorte que bah, tout se passe bien dans la classe et que s'il y a des problèmes ou des choses que vous voyez avec un ou plusieurs élèves, donc avec une ou plusieurs missions, bah, vous faisiez des best practices et vous échangez des outils. Et à côté de ça, bah, la classe elle-même, c'est les équipes métiers, c'est les gens qui font le travail. Et là, c'est avec eux que tu vas travailler au jour le jour, vraiment, ouais, que tu vas faire le travail lui-même, on peut voir.
C'est ça, c'est une manière de résumer. Ouais. Ouais.
C'est genre 5 personnes dans l'équipe ou c'est quelque chose d'énorme comme 15, 20
On est 8 dans l'équipe. Et la particularité, c'est que, parce que d'ailleurs, ce que je trouve assez intéressant chez Amazon, c'est que quand on est une équipe au niveau zone, c'est-à-dire par exemple les MEIA, c'est une désorganisation assez gazeuse. Donc moi, par exemple, je suis basé à Paris, mais j'ai d'autres membres de mon équipe qui sont à Londres, d'autres à Madrid, Milan, Munich. Donc on est assez fluide, on travaille essentiellement en remote, et puis après on va faire souvent, on va se déplacer en fait dans différentes villes en Europe pour intervenir avec soit bah, l'équivalent des élèves, comme tu l'as mentionné, donc les équipes métiers, soit les membres de notre équipe. Ouais.
Donc EMEA, ça veut dire Europe, Middle East et Africa. C'est pas trop dur au niveau du jet lag, vous avez des réunions régulières, tu dois pas finir tard ou tôt par moment?
Alors, pas tant que ça, parce qu'en fait, la zone EMEA, au final, si tu regardes la carte, c'est une zone qui est assez verticale. Donc, on va dire que la plus grande différence d'horaire, c'est avec Dubaï, où de mort, t'as 4 ou 5 heures. Mais sinon, sur la zone Europe, à part le 1 heure de décalage entre le UK et le reste de l'Europe, globalement, c'est tout le monde est sur la même heure. Et même sur la zone Afrique, c'est sur les mêmes fuseaux horaires. Donc, non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Éventuellement, des fois, où on a besoin de se caler un petit peu plus, c'est quand on a besoin de faire des réunions avec le global, donc qui sont en général à Seattle, donc Pacific Time, et des fois on a des échanges de best practices avec par exemple Asia Pacific, donc ça va être plutôt le matin, mais non, globalement ça reste sur une time zone assez friendly.
D'accord. Ah non, bon, c'est bien, moi ça veut dire que tu as quand même une journée qui va être, tu peux assez centrer avec potentiellement une fois ou deux des meetings qui vont vraiment changer. D'ailleurs, pour toi, une journée classique ou une semaine classique, parce que potentiellement, tu n'as pas la même journée tout le temps, mais à quoi ça ressemble une journée typique dans ton travail?
Ouais, bon, ça peut varier beaucoup parce que comme j'ai une activité qui est sur laquelle il y a quand même une grosse composante, on va dire, de ad hoc avec des analyses qui sont un petit peu qui dépendent du moment, et puis le fait qu'en plus chez Amazon le business change énormément, je vais avoir quand même pas mal de plages où je vais devoir faire des analyses. Donc ça peut être des analyses, en général c'est assez quantitatif, en plus chez Amazon on doit aller bien, enfin je pense que la spécificité c'est que par rapport à d'autres entreprises où les profils type stratégie ont quand même une orientation 80% business, je dirais, chez Amazon faut vraiment, et c'est ça qui est assez intéressant d'ailleurs pour un ingénieur, il recherche vraiment une composante technique et quantitative qui est assez forte. Donc, je pense que c'est bien d'avoir un profil un peu 50-50 entre le business et le technique. Parce que, par exemple, quand on fait des analyses, on doit aller beaucoup plus profond en termes d'analyse quantitative que ce qu'on ferait dans d'autres entreprises. Donc, ça veut dire qu'il faut maîtriser un peu de SQL. C'est pas mal de maîtriser un peu de Python, par exemple, pour faire vraiment de la data analysis. Et derrière, en fait, une fois qu'on a fait nos analyses, donc ça dépend des périodes, mais je peux y consacrer peut-être une à deux heures par jour sur une journée type. Derrière, il y a toute la partie un petit peu analyse business. Une fois qu'on a les résultats, comment on va transformer ça en recommandations, avec la spécificité chez Amazon que quand on présente des recommandations chez Amazon, on ne présente pas des présentations avec des PowerPoint, mais on fait des papers, en fait. Donc des two-pagers ou des six-pagers, donc ça demande pas mal de structuration, ça demande un petit peu un état d'esprit qui est un peu différent de ce qu'on peut avoir, par exemple, quand on fait du conseiller en stratégie, qui était mon expérience précédente. Interprétation des résultats, proposition des plans d'action, et puis après, on va avoir bah, évidemment des... Moi, typiquement, sur la partie chef de cabinet, je vais avoir des interactions assez régulières avec la directrice EMEA du segment pour lequel je travaille. Donc ça va être entre peut-être, ça dépend des jours, il y a des jours où je ne vais pas lui parler, mais en moyenne 30 minutes par jour pour lui présenter un petit peu les résultats, pour comprendre d'elle ce qu'elle a besoin, pour échange. Ensuite, il va y avoir des cadences un petit peu régulières, certaines que je vais animer, notamment ce qu'on appelle les monthly business reviews, qui vont réunir en fait les directeurs commerciaux de toutes les régions en Europe, sur mon segment et sur lesquels en fait on essaye de comprendre quel est l'état du business. Moi, à partir des analyses que je fais, on va essayer de mettre en lumière ce qu'on appelle les gap to plan, c'est-à-dire à quel endroit en fait on est un petit peu en retard sur nos cibles commerciales, qu'est-ce qui va expliquer ça. Donc ça, on essaye de le faire en séance d'une part, et je vais faire des analyses complémentaires sur le côté pour essayer de comprendre et de guider la discussion. Donc ça, on va dire les cadences régulières, ça va être pour les Monthly Business Review, 2 heures tous les mois. Et puis, sinon, on a un plus petit comité avec les équipes Business Development, j'en menais une toutes les semaines. Et ouais, c'est essentiellement, en fait, ce qui va constituer une journée. Donc, un petit peu un mélange entre analyse, comprendre ce qui se passe, transformer en recommandation et des cadences ou des réunions spécifiques pour essayer justement de partager ces recommandations et de s'assurer en fait qu'elles vont être exécutées par l'organisation commerciale.
Ça fait des belles journées chargées.
Ça fait des journées bien remplies.
Les équipes commerciales, donc là c'était plus pour revenir sur la métaphore, c'est un peu les élèves, enfin, les équipes métiers dont tu parlais. Là on parle de combien de personnes à peu près pour avoir un ordre de grandeur? C'est plutôt pareil 5-10 ou c'est des équipes avec des directeurs et donc ils sont peut-être 50 au total, mais toi tu vas parler avec 5 de ces personnes?
Ouais, donc la zone EMEA en fait c'est 11 régions. Donc une région par exemple ça peut être, donc on a France, on a UK, Irlande, on a Iberia qui regroupe Espagne, Portugal, en Italie, enfin voilà. Et donc 11 régions, chacune de ces régions va avoir en fait un directeur commercial principal, en général secondé par un directeur commercial qu'on appelle directeur inside sales, donc qui va s'occuper lui, en fait, dans les équipes commerciales, je pense que c'est pas spécifique Amazon, c'est un petit peu sur toutes les boîtes tech en tout cas. On va distinguer ce qu'on appelle les account managers, qui sont un peu des équipes, des commerciaux seniors, et des inside sales, qui sont des commerciaux juniors. Et en fait, on va structurer la stratégie de telle sorte à, par exemple, donner des plus gros comptes qui nécessitent beaucoup plus de relationnel, du travail plus en profondeur à des account managers, et utiliser les inside sales, donc les junior sales, pour faire plus du volume et de ce qu'on appellerait de la long tail, donc plutôt un grand volume de plus petits comptes. Donc entre toutes ces, donc ça nous fait à peu près un directeur commerciaux et son second par zone, donc à peu près 22 personnes. Et en termes de, si on compte tous les commerciaux, donc account manager plus CSR, sur mon segment, donc new customer acquisition, sur la zone EMEA, ça va faire à peu près 400 personnes.
Ah ouais, quand même, ok, c'est beaucoup.
Ouais, alors sachant qu'on est un des plus petits segments, parce qu'en fait, nous on prépare, si tu veux, la cohorte de clients de demain d'Amazon, mais 90% du revenu vient en fait des clients actuels. Donc ça veut dire qu'il y a encore des équipes commerciales qui s'occupent des clients, ce qu'on appelle engaged, donc les clients actuels. Et là, on est plutôt sur un millier de sales à peu près.
Après, c'est différent aussi comme type de sales, parce que là, ce que tu appelles account management et inside sales, c'est des gens qui vont trouver des nouveaux clients potentiels. Donc, c'est plus de la prospection et potentiellement de l'établissement de contrats ou ces cycles qui peuvent être plutôt moyens ou longs, j'imagine. Alors que quand tu as des clients qui sont déjà engaged, les account managers à ce moment-là font plus du relationnel, du maintien, de l'upsell. Et donc, c'est des métiers quand même qui sont similaires, mais relativement différents au quotidien.
C'est ça, c'est des métiers qui sont similaires mais différents. C'est des métiers d'ailleurs qu'on ne mesure pas avec les mêmes métriques. Parce que typiquement, sur l'acquisition de nouveaux clients, on va dire, un sales un peu classique est souvent mesuré sur le revenu qu'il génère, ce qui est normal. Sur l'acquisition de nouveaux clients, ce n'est pas une bonne métrique, le revenu qu'il génère, parce qu'en fait, en revenu dans l'année, c'est des clients souvent qui partent de zéro, donc il faut construire la relation. On n'est même pas sûr de générer du revenu sur la première année. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir un petit peu des... Nous, en fait, on définit des seuils dans l'expérience client qui vont définir, en fait, à quel moment le client sera armé, enfin, quels sont un petit peu des jalons critiques dans son parcours en tant que client Amazon. Et nous, on va essayer de les amener vers ces jalons qui vont en général être comme des seuils de revenus, mais on essaie d'ajouter des nuances un petit peu, par exemple, le type de produit qu'ils vont consommer pour être sûr qu'ils sont bien équipés pour derrière avoir une expérience cloud satisfaisante. Et en fait, on va plutôt mesurer l'atteinte de ces jalons. Et sachant que nous, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est aussi de mesurer un petit peu la qualité des clients avec qui on va créer ces relations, parce qu'en fait, potentiellement on préfère en fait se concentrer sur les clients qui vont avoir de la long term value, en fait un potentiel de revenu à 5 ans intéressant. Et c'est aussi un moyen d'avoir de la visibilité en interne, parce que forcément dans une organisation commerciale, quand on se présente juste sous l'optique revenu, moi mon segment c'est une part assez faible du revenu EMEA, mais si on commence à parler du potentiel de revenu à 5 ans, là on commence à devenir plus intéressant au niveau du management global sales. Et c'est là en fait qu'on permet en fait d'avancer sur le thème, de donner de la visibilité.
Alors, une question, juste que j'ai peut-être fait une assumption sans le dire au début, quand tu disais que tu avais des new customer acquisition et que c'était AWS, dans ma tête, je pensais gros clients, grosses entreprises qui ont des gros besoins, du type Lafarge, Bouygues, etc. Et c'est pour ça, quand tu m'as dit 400 sales et que tu parles justement des inside sales, qui sont plutôt des profils juniors qui vont attaquer, c'est moi qui vont s'occuper, qui vont prendre en charge des personnes sur la long tail, donc des clients potentiellement plus petits mais qui sont beaucoup plus nombreux. En fait, Je me suis dit, c'est peut-être pas ça le profil type de client que vous avez à AWS. C'est aussi des, enfin, il y a des, c'est quoi la taille générale des clients? Enfin, il y a les gros, bien sûr, les gros comptes, mais un petit client, c'est quoi pour vous?
Ouais, alors, on a vraiment de tout. Donc, en fait, les clients, les types de clients que tu as mentionnés, les Bouygues, Lafarge, on appelle ça les enterprise. Et en fait, quand je t'ai mentionné les 400 sales, c'est simplement sur le segment enterprise. Ça veut dire qu'en fait, les account managers vont vraiment se concentrer sur ce qu'on appelle les large customers. Donc, ça va être typiquement les grands groupes comme que tu as mentionné, les Bouygues et compagnie. En fait, ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que le cloud public, ça existe depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, en fait, AWS a été un peu le premier acteur sur le cloud public. Il y a des entreprises qui ont tout de suite, en fait, qui sont tout de suite jetées dans ce modèle, notamment, par exemple, Netflix, par exemple, beaucoup d'éditeurs de logiciels. Mais il y a des entreprises plus traditionnelles qui, en fait, fonctionnent essentiellement sur des serveurs, ce qu'on appelle on-premises. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir des data centers qui vont opérer eux-mêmes. Et il y en a beaucoup qui fonctionnent encore comme ça. Alors, ça a ses avantages, c'est-à-dire qu'on a la maîtrise sur notre infrastructure de données, mais ça, c'est quand même un métier qui est assez lourd parce que ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de gestion du matériel, il faut avoir des personnes dédiées pour s'occuper de ces data centers. Si on est une entreprise en forte croissance, c'est un peu embêtant parce qu'on a des problèmes de scalabilité. Ça veut dire qu'il faut qu'on provisionne un petit peu le nombre de serveurs dont on a besoin pour accompagner la croissance de l'entreprise. Et typiquement, quand on s'appelle Netflix et qu'on peut avoir des pics en fait de trafic qui sont très différents, c'est quasiment impossible de gérer en on-premises. Donc en fait, c'est là que ça devient intéressant de passer par des fournisseurs de cloud public qui vont avoir beaucoup de flexibilité, qui peuvent à la demande allouer de la puissance en fait de calcul. Et en fait, il y a des entreprises là, ça fait 20 ans que ce marché du cloud public existe, et commence tout juste à se poser la question. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a encore beaucoup de sales qui vont en fait aller prospecter ces entreprises un petit peu classiques pour leur présenter les avantages de passer sur le cloud et de manière assez intéressante. Alors que AWS est un peu le pionnier du marché du cloud public, on a un petit peu du mal en fait à aller voir ces clients enterprise qui ne sont pas encore passés sur cloud parce qu'on a une image un petit peu trop geek entre guillemets. Notre produit est perçu comme très complexe. On a probablement la solution qui est peut-être la plus personnalisable du marché, mais c'est limite trop complexe et trop personnalisable pour une entreprise classique qui n'a pas forcément un mode de pensée très tech. Donc en fait, notre challenge, c'est d'essayer un petit peu de repositionner la façon dont on approche les clients sur une approche plus verticalisée, c'est-à-dire plus centrée sur les business outcomes plutôt que sur la solution technique en elle-même. Donc, c'est un petit peu le challenge qu'on a en ce moment. Donc, ça va être pour les clients vraiment entreprises, les grosses entreprises. Et en fait, quand je disais que les inside sales se concentrent sur la long tail, là, je parle d'une long tail qui est plutôt des entreprises qu'on appelle mid-size, c'est-à-dire des groupes qui vont être en dessous du milliard, quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an, on va dire. Donc, ça reste quand même du gros client. Après, c'est vrai que je l'ai pas mentionné parce que, on va dire, j'interviens un peu moins en direct, mais sur ces segments-là, mais j'interviens quand même un petit peu, on va dire, sur 20% de mon temps. On a aussi des clients qui sont small and medium businesses. Donc là, ça va être des PME. Donc là, on va parler vraiment de la très très long tail. Et d'ailleurs, en fait, sur ce segment-là, ce qui est intéressant, c'est que comme on doit vraiment intervenir à l'échelle. On va avoir beaucoup moins de sales, on va avoir peut-être une centaine de sales, mais par contre, on va avoir beaucoup de business development team qui vont créer des programmes pour, en fait, on a beaucoup plus d'importance du marketing, on a beaucoup plus d'importance de gérer du parcours client en self-service parce qu'en fait, l'essentiel de l'acquisition de nouveaux clients sur les PME va se faire en self-service. Parce que c'est impossible, en fait, humainement, d'aller chercher un tel volume de clients qui ont en plus on va dire un potentiel de dépenses avec AWS qui n'a rien à voir avec une grande entreprise. C'est beaucoup plus difficile d'allouer des sales en termes juste de retour sur investissement. C'est pas intéressant. Donc on va vraiment travailler plus sur ces clients-là avec du programme marketing et avec du parcours client.
Ouais, il y a beaucoup d'automatisation et
C'est ça.
potentiellement de training via. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, hein, donc je dis peut-être un truc totalement en mode en blind, hein, mais c'est quand je vois Salesforce, par exemple, qui fait des programmes de formation pour, ils appellent ça des trailblazers, je crois, pour utiliser leur programme. C'est peut-être un peu similaire, j'imagine, avec vous. Il y a peut-être un programme de, pas forcément de certification, mais d'entraînement pour des PME qui viennent. Ils ont tous un parcours, comment utiliser AWS pour une PME.
Ouais, absolument, absolument. Il y a des trainings, il y a des certifications. En fait, tu peux passer des certifications à AWS. D'ailleurs, il y a plusieurs niveaux. On donne tout. Enfin, on a pas mal de ressources en self-service pour apprendre à utiliser AWS. Après, ça va être animé par des campagnes, on va dire, marketing plutôt email, donc beaucoup de touch en email. Ça va être accompagné par des campagnes plus en physique. Donc, ça reprend maintenant avec le Covid, mais sur tout ce qui est salon, événement. Donc là, en général, on est assez présent, ce qui va nous permettre de générer des contacts. Et après, on va pouvoir, donc sur lequel on va pouvoir faire soit du marketing, soit si c'est des contacts sur des entreprises un peu plus grosses, on peut aller avoir des sales qui vont les contacter en direct. Donc ouais, ça va être un petit peu tous ces types de programmes. On a des programmes aussi de, par exemple, où on va donner à des clients qu'on veut développer des crédits. Ça veut dire, en fait, c'est comme une enveloppe qu'ils peuvent dépenser avec Amazon pour les aider, en fait, à construire leur cloud. On a des équipes aussi de conseils qu'on appelle Professional Services qui vont, par exemple, un petit peu coupler le produit cloud en elle-même avec des missions de conseils un peu plus classiques où, en fait, on va vraiment lier l'implémentation de solutions cloud avec la résolution d'une problématique business spécifique. Donc, c'est un petit peu tous les leviers qu'on peut essayer d'activer pour essayer d'être au plus près, en fait, du besoin du client et essayer d'intégrer au mieux possible comment le cloud peut les aider, en fait, à non pas, en fait, dans la vision classique, en fait, à dire, ouais, super, on a acheté 100 unités de computing en cloud et c'est super rapide, c'est super intéressant ce qu'AWS sont très performants. Ok, ça parle pas à tout le monde, mais par exemple si on va derrière bundler ça avec de la formation, des services professionnels, et que le client peut se dire, bah en fait, en implémentant ça, j'ai gagné 10% en productivité, j'ai baissé mes coûts d'opération de mon IT de 15%, et derrière ça m'a permis, parce que ma plateforme est maintenant plus flexible et j'ai une plateforme web, d'acquérir mes clients, en fait, tout le monde a gagné parce que eux, ils ont eu vraiment des business outcomes tangibles. Et derrière, nous, on a pu les aider, en fait, en construisant avec nos solutions. Et ça crée un cercle vertueux où, en fait, nous, on est on demand. Donc, en fait, après, ils vont être assez flexibles sur construire sur la plateforme AWS. Et ce qui va nous, de notre côté, de vendre plus de produits parce que, en fait, plus ils ont besoin et plus, en fait, ils vont construire sur notre plateforme. Et eux, de leur côté, ils vont être assez flexibles pour être plus autonomes et vraiment innover à partir de notre plateforme pour derrière générer des innovations produits ou aller chercher des nouveaux clients.
Ouais, non, ça fait sens. Et ça fait très sens. Une question sur. Une dernière sur AWS en particulier, puis après, moi, je reviendrai un peu sur ton parcours aussi, sur les transitions qu'il y a pu avoir, les dernières. C'est. Donc, tu mentionnais tout à l'heure les 2-pagers, les 6-pagers qui sont classiques à AWS. J'ai lu le livre qui sert actuellement de pile pour l'ordinateur et pour que je puisse bien te regarder. Mais je crois que c'était un livre qui avait été écrit par une des premières personnes qui était à Amazon, plutôt sur Walking Backwards ou quelque chose comme ça. Donc, j'avais déjà connaissance de ces choses-là. Mais est-ce que toi, il y a des choses particulières qui t'ont étonné, auxquelles tu t'attendais pas forcément quand tu es arrivé chez AWS / Amazon, depuis ton travail justement de consultant, sur peut-être des manières de faire, ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise en arrivant?
Ouais, tout à fait. Alors déjà, Amazon, c'est une entreprise qui a une identité d'entreprise extrêmement forte. En fait, par rapport à une entreprise classique, ce qui est un petit peu déroutant, on va dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment une stratégie centralisée. Donc, je parlais par exemple plutôt d'un Comex EMEA. Je pense que par rapport à une entreprise classique où les décisions sont très centralisées sur le Comex, et après c'est très top-down, le Comex EMEA, par exemple, un Comex chez Amazon va plus rendre des arbitrages, mais après il va y avoir beaucoup d'innovations et de décisions qui viennent des équipes sur le terrain. Et on va dire le seul guide qui va structurer un petit peu la façon dont on va développer des initiatives et on va faire une stratégie chez Amazon, c'est les 14 Leadership Principles, dont tu as sûrement dû entendre parler dans le livre que tu as vu. Ils sont un petit peu 14 règles que Jeff Bezos avait définies quand il avait démarré Amazon. Et en fait, globalement, quand on rentre chez Amazon, les 2 à 3 premiers mois, on ne demande pas du tout de se concentrer sur notre rôle en soi-même. On fait quasiment que des trainings sur la culture à Amazon. Donc, on va avoir énormément de trainings, en fait, sur ces 14 leadership principles, sur la façon, justement, dont on écrit chez Amazon, sur la façon dont une entreprise, sur la façon dont une réunion se déroule chez Amazon. Donc ça, c'est assez déroutant parce que d'habitude, une entreprise classique, on demande assez vite d'être dans le bain. Mais en fait, ils considèrent que si tu n'as pas eu cette immersion, tu ne peux pas fonctionner efficacement dans l'entreprise. Et en fait, au final, au début, c'est un peu déstabilisant, mais après, on se rend compte de la valeur de l'approche parce que Ça nous met dans une position où on est très, très, très encouragé à innover sur le terrain. Donc, c'est comme un petit peu, ça génère une culture entrepreneuriale à l'intérieur de l'entreprise. Et par exemple, en fait, moi, dans mon travail de tous les jours, je donne des exemples bêtes, mais on me demande une analyse, je me rends très vite compte que je ne peux pas vraiment délivrer cette analyse de manière classique avec mon, comme je faisais avant en tant que consultant, donc aller consulter des études un petit peu externes, faire la synthèse de différents insights que j'ai pas à partir de ces études, et puis après donner mon avis. Là, en fait, il y avait vraiment besoin d'aller très très profond dans les analyses. Et très vite, je l'ai mentionné un peu rapidement au début, mais j'ai eu ce besoin de me former en fait et de commencer en fait à créer, bah, par exemple, des modèles Python, des petits logiciels Python, des applications web, donc sur lesquels en fait je me suis formé moi-même à partir des ressources disponibles en interne, parce qu'il y a aussi énormément de ressources disponibles en interne. Et derrière, en fait, là où dans une entreprise classique, je pense que j'aurais eu un petit peu une pression et une appréhension du management sur le fait que j'étais en train de développer quelque chose d'un petit peu nouveau, quelque chose qui ne rentre pas dans les règles habituelles de la façon dont on fait. Donc, très vite, on m'aura demandé de changer un petit peu comment dire, de façon de faire. Là, en fait, on m'a laissé un petit peu innover, on m'a laissé proposer une solution, et en fait, derrière, on mesure si ça a marché ou pas. On est tout à fait OK chez Amazon de voir quelqu'un, en fait, de voir une solution qui n'a pas marché. Si on a essayé et que derrière, on n'a pas marché, et que derrière, on est dans une position, on va dire, assez critique de soi-même et dire voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce qui n'a pas fonctionné, et voilà comment on va faire la prochaine fois, c'est quelque chose qui est tout à fait accepté. Et on va pas nous reprocher un échec si on a développé une nouvelle tentative pour le faire. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, la plupart des nouveaux produits qui sont lancés chez Amazon, et je pense d'ailleurs que, enfin, moi, je mentionne Amazon, mais je pense que d'autres grosses boîtes de tech fonctionnent pareil. J'ai en tête Google, je pense que c'est le même mode de fonctionnement. Mais c'est pour ça qu'en fait, ces entreprises de l'extérieur peuvent avoir ça peut donner l'impression d'être un peu désorganisé avec, par exemple, des lancements de produits un petit peu à tout va, pas divers. C'est parce qu'en fait, des équipes en local vont lancer quelque chose, vont le pitcher en fait au management. Management va dire OK, on va le tester. Et on préfère tester. Si ça marche pas, tant pis, on arrête, on fait autre chose, que vraiment d'attendre en fait X années de tests en interne, de tergiverser avant de lancer quelque chose et d'être 100% sûr que ça marche. Donc, c'est un petit peu ce côté, je pense, mettre en place une organisation et des règles qui vont permettre de s'assurer que tant qu'on reste dans ces règles, on peut innover de manière assez libre, qui va permettre de générer en fait toujours ce côté entrepreneurial dans une entreprise qui a quand même maintenant 25 ans. Et je pense que, bah, je dis pas qu'il n'y a pas de bureaucratie qui s'en fait comme dans toutes les grandes entreprises, c'est normal, mais je pense de manière beaucoup moins rapide que ce qui peut arriver dans une entreprise traditionnelle. Donc c'est le point positif, on va dire, de la philosophie.
Oh, c'est cool. Oh, ça correspond un peu à ce que j'avais lu, mais ça fait. Je n'avais pas conscience forcément que c'était 2, 3 mois aussi intense au départ, et ça doit permettre d'avoir une super culture ensuite, enfin surtout une certaine homogénéisation, vu qu'il y a des profils extrêmement variés, ça te fait quand même un socle de base commun. Et pour ta remarque sur d'autres entreprises de tech qui font sûrement certaines choses similaires pour les projets, je parlais, il y a un podcast qui va sortir que j'ai fait avec un ami d'école qui s'appelle Johan, qui est à Google, et il me disait que par exemple pour lui qui est en product management, il utilisait des petites vidéos de 40 secondes pour les fonctionnalités qu'il voulait mettre en avant ou non, en injectant du code PHP dans le truc pour que ça fasse un peu, pour que ça marche et que tu puisses avoir juste un truc qui est visible et qui en fait change beaucoup par exemple de ce qui se faisait avant avec enfin, des drafts ou autres, mais qui lors de meeting permet tout de suite de se dire OK, oui, non, ça marche, c'est ce qu'on a envie de faire, ou bien fais ceci, rajoute un truc là, et qui est encore plus vivant que potentiellement les sketchs qu'il y avait avant. Et ça reprend un peu aussi la dimension technique dont tu parlais tout à l'heure, où c'est bien de faire du business, mais avoir l'alliage quand tu es ingénieur technique business, ça peut vraiment faire une énorme différence. Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur les nouvelles idées qui étaient, si ça marche, go quoi, vas-y. Enfin, tente plutôt d'abord. Si ça ne marche pas, c'est pas grave tant que tu apprends des choses. Et si ça marche, bah c'est let's go, on essaye.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et une question d'ailleurs sur ça, parce que c'était comme très différent. Qu'est-ce qui t'a donné envie de transitionner? Tu as fait du conseil en stratégie pendant plusieurs années avant, que ce soit en France et aussi à Singapour pendant 1 an et demi, si les fiches LinkedIn sont bonnes. Et ensuite, là-bas, une fois à Singapour, tu as changé pour AWS. J'ai vu ça et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait cette transition? Et aussi, comment ça s'est passé? Parce que c'était à Singapour, quoi. C'est pas non plus une transition, entre guillemets, pas simple, mais traditionnel, où tu es en France, on te contacte. Là, c'était à l'étranger, peut-être une question de visa. Enfin, comment ça s'est passé tout ça? Quel était le cheminement? Si tu peux partager ça.
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, donc en effet, ouais, j'ai eu une longue partie de ma carrière en conseiller en stratégie. Donc, dans un cabinet qui s'appelle EY Parthenon, qui est la division conseil en stratégie de EY. Donc, j'ai commencé à Paris. Donc, j'ai beaucoup aimé conseil en stratégie, très sincèrement, en fait. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce format, c'est que on fait énormément de missions courtes. C'est-à-dire que c'est des missions qui sont typiquement moins de 2 mois. Donc, je pense qu'en 5 ans de conseil en stratégie, j'ai dû faire à peu près 30 projets différents. C'est des projets qui sont extrêmement variés, c'est-à-dire sur une très large variété de secteurs. J'ai fait du secteur public, de l'énergie, de la tech, du retail. J'ai travaillé sur des sujets improbables, sur des compagnies de services funéraires. Enfin, c'est pas drôle, parfois. Dans beaucoup de géographies, j'ai fait des missions en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, dans toute l'Asie du Sud-Est. Donc, ça, c'est vraiment le côté hyper intéressant du conseil en stratégie. C'est très varié. Et en plus, je pense que pour un ingénieur, ça peut être assez stimulant parce que de plus en plus, il y a une appétence dans le conseil en stratégie pour les profils très quantitatifs. Parce que comme c'est la plupart des projets en fait sont destinés à développer des stratégies de 3 à 5 ans, les deux composantes les plus importantes quand on développe une stratégie sur 3 à 5 ans, c'est de comprendre comment un marché va évoluer et comment à l'intérieur d'un marché, notre entreprise va concurrencer, enfin, va se comporter par rapport à ses concurrents. Donc, ça veut dire qu'un des points cruciaux, c'est la modélisation des marchés. Et sur la modélisation des marchés, en tant qu'ingénieur, on a un gros avantage. À mon époque, ça se faisait en Excel. On testait vraiment les limites d'Excel, c'est ça qui est assez drôle. Et moi, je pense que maintenant, de plus en plus, on fait avec, bien sûr, des outils qui sont beaucoup plus adaptés, notamment à des volumes de données assez importants. Mais ça me permettait. En même temps, puisque j'étais identifié justement ingénieur assez quantitatif, d'avoir ce côté très technique, très quantitatif, et d'avoir beaucoup de variété et d'apprendre beaucoup de choses. Enfin, moi, c'est un fil rouge que j'ai toujours eu dans ma carrière. J'aime énormément apprendre, que ce soit apprendre sur des nouveaux secteurs, des nouveaux sujets ou apprendre de nouvelles compétences. Et je pense que vraiment, ça, c'est quelque chose que le conseiller en stratégie permet de faire par ce cycle court de mission et la variété des missions. Donc, c'est un métier qui est très intéressant, c'est un métier qui est très intense. Les heures sont très longues en conseil en stratégie. Ça veut aussi dire que, quand j'étais en Europe, on va dire, je pense que le conseil en stratégie en Europe est assez mature. C'est-à-dire que les entreprises, le marché du conseil est très segmenté. Le conseil en stratégie, c'est un petit peu la partie premium du conseil. Et les entreprises savent qu'elles dépensent plus en Europe pour du conseil en stratégie. Et les attentes sont en regard, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils achètent en termes de livrables et il y a un respect mutuel entre les équipes conseil et les clients. J'ai décidé ensuite à un moment de ma carrière, parce que j'avais toujours en fait, prévu d'aller à l'étranger, de bouger à Singapour. Donc j'ai pu le faire en interne avec mon cabinet. J'ai bougé de EY Parthenon Paris et EY Parthenon Singapour. Et je pense que c'était une expérience très enrichissante dans le sens où j'ai découvert encore beaucoup de nouveaux marchés qui étaient beaucoup plus émergents que ce que j'avais pu voir. Même si j'ai travaillé sur des marchés en Afrique qui étaient d'une certaine manière émergents, les marchés en Asie du Sud-Est, c'est un autre univers. Ce sont des marchés à très, très forte croissance. Des croissances de PIB qui sont, en tout cas à l'époque, avant le Covid, qui pouvait aller jusqu'à 15-20% par an. Donc, des problématiques qui sont assez différentes. On a vraiment, ils ne se soucient pas du tout des coûts, par exemple. Donc, c'est vraiment de la stratégie de croissance pure et dure. Donc, des nouveaux sujets. Après, en termes de maturité du marché de conseil, c'est quand même beaucoup moins mature. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un modèle où, en fait, les clients voient le conseil comme une commodité et considèrent qu'ils achètent plus des ressources que du livrable et vraiment des analyses, on va dire, très valorisantes et très structurantes pour l'entreprise. Ce qui peut, en fait, comme j'ai dit, on travaille beaucoup en conseil, donc à partir du moment où on rentre dans un modèle de commodité, ça peut devenir un petit peu plus pesant. On perd un petit peu, je trouve, le sens de notre métier. On a un petit peu moins de... Il y a un peu moins de focus sur la qualité de ce qu'on délivre et plus de focus sur la quantité. Et donc, je pense qu'on perd un petit peu l'essence du conseil, ce qui fait qu'à un moment, je commence à me poser des questions sur... je souhaiterais changer.
Ça doit être moins agréable au quotidien aussi.
C'est moins agréable au quotidien, tout à fait, ouais. Donc voilà, j'ai souhaité en fait changer et puis en fait continuer sur ce parcours stratégie parce que c'était un sujet que j'aime beaucoup, mais partir plus dans l'entreprise. Donc c'est vrai que par rapport au fit culturel, j'ai assez vite senti que les entreprises tech étaient ce qui se rapprochait le plus un petit peu du mélange capacité d'innovation possibilité en tant qu'ingénieur de formation d'avoir son profil et son côté quantitatif et technique assez reconnu, et d'autre part de manière beaucoup plus pragmatique. Et je pense que dans ta question, c'est un petit peu ce que tu essayais de toucher sur comment on change de travail à l'étranger. En effet, à Singapour, il y a beaucoup de restrictions sur le travail des étrangers et des expats en général. Donc en fait, la difficulté, c'est que contrairement à d'autres pays, alors je ne sais pas si c'est la même chose en Australie par exemple, mais le permis de travail est lié au contrat de travail. C'est-à-dire que on ne peut pas démissionner comme ça et juste rester chercher du travail. Donc il faut le faire en fait vraiment en parallèle de son job. On est obligé de trouver un travail après si on veut rester sur le territoire. Et d'autre part, ce qui rend la chose encore plus difficile, c'est que les entreprises ont des quotas d'étrangers. C'est-à-dire que énormément d'offres d'emploi sont en fait fermées aux étrangers. Ils le disent même dans la description de l'offre d'emploi. Et finalement, de manière très pragmatique, là où c'est le plus facile en tant qu'étranger de trouver un boulot, c'est dans les GAFA, tout simplement parce que Singapour, en tant que pays, a une stratégie de hub Asie-Pacifique pour les grandes entreprises. Et notamment, parmi cette stratégie, ils veulent absolument en fait attirer les headquarters régions des GAFA. Ça veut dire qu'ils ont des négociations de gré à gré qui leur permettent en fait d'avoir plus de quotas de travailleurs étrangers que certaines autres entreprises. Donc, ils ont moins de restrictions sur ce côté-là par rapport à d'autres entreprises qui peuvent être à Singapour. Donc voilà, c'est comme ça aussi que j'ai postulé chez tous les GAFA et j'ai eu des entretiens chez tous les GAFA alors que chez les autres entreprises, en général, je n'avais pas de réponse. Et donc derrière, après le process de recrutement, j'ai mentionné tout à l'heure la culture Amazon. Le processus de recrutement est très centré sur la culture, beaucoup plus que sur les compétences techniques et le fit pour le poste. Deux raisons pour ça, c'est que d'une part, je l'ai mentionné, la culture est très importante chez Amazon, et aussi en fait, ils considèrent qu'ils recrutent des profils polyvalents, c'est-à-dire que l'idée chez Amazon n'est pas de rester sur un poste identifié pendant X années. Ça va être vraiment en fait d'être assez fluide et de pouvoir bouger entre beaucoup d'équipes différentes et aussi beaucoup de business différents chez Amazon. Donc en fait, le process de recrutement, ça va être en général ce qu'on appelle il va y avoir d'abord un premier entretien de screening qui va être un petit peu la seule partie où on va vraiment vérifier le fit technique et expérience avec l'offre elle-même à laquelle on répond. Et après, en fait, le gros du process, ça va être ce qu'on appelle la loupe. Donc, c'est une série de 5 entretiens qui, en général, se font sur 1 ou 2 jours de 45 minutes, en fait, sur un format très précis, en fait, où on va poser Chaque intervieweur va poser 2 à 3 questions qui sont tout le temps en fait liées à des leadership principles, donc un leadership principal parmi les 14 que j'ai mentionné précédemment. Et l'idée en fait, c'est en tant que candidat, on doit y répondre en suivant une structure très précise, une structure ce qu'on appelle STAR, Situation, Tasks, Achievement, Result, donc très structurée avec une mise en contexte, quel était l'objectif, comment on y a répondu et quels ont été les résultats qu'on a délivrés. Et l'idée, ça demande beaucoup de préparation, c'est ce type d'entretien. Et en fait, je trouve ce qui est intéressant au final, c'est que même si on passe les entretiens et qu'au final, ça ne marche pas, c'est un exercice qui nous force en fait à avoir une vision rétrospective de notre expérience et vraiment avoir cette approche analytique, ce framework sur comment on analyse nos expériences. Et avoir une approche très unitaire et très détaillée sur comment on l'a fait. Parce que typiquement, pendant les entretiens, en général, l'intervieweur va aller assez profond, va poser beaucoup de questions sur ce qu'on a fait, pour d'une part s'assurer qu'on n'est pas en train d'inventer une expérience et qu'on l'a vraiment fait, et d'autre part, en fait, essayer de vraiment comprendre dans la façon dont on délivre un projet, dont on mène en fait une tâche, si on est en adéquation avec les leadership principles. Et donc, une fois qu'on a passé cette loupe, derrière Amazon. Donc, j'ai rejoint Amazon à Singapour, donc chez AWS déjà. Donc, j'étais dans une partie Amazon qu'on appelle AWS Marketplace, qu'on peut un petit peu imaginer comme étant l'App Store ou le Google Play Store d'Amazon. Donc, c'est une plateforme dans l'environnement AWS où on peut acheter en fait des solutions logicielles tierces et déployer dans son environnement Amazon. Et donc, en fait, ça, c'est un business qui est relativement nouveau chez Amazon. Quand j'ai rejoint en 2019, ça venait de se lancer en Asie-Pacifique. Et donc, j'avais un rôle similaire, stratégie and operations pour ce business. Donc, l'idée, c'était vraiment là de construire un petit peu à partir de rien comment on allait déployer AWS Marketplace sur la zone Asie-Pacifique. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Ensuite, malheureusement, donc, il y a eu le Covid, donc j'ai, J'ai fait un monde sous Covid à Singapour. C'était un environnement assez particulier, stratégie zéro Covid. Donc, je pense que tu t'as connu ça en Australie aussi. C'est quand même beaucoup de récessions. C'était assez pesant. Et puis, en tant qu'expatrié, aussi, malheureusement, l'impossibilité de rentrer en France pour aller voir sa famille. J'ai beaucoup aimé Singapour, mais j'aurais souhaité sûrement y rester plus s'il n'y avait pas eu le Covid. Mais le fait est que j'ai décidé de rentrer pour me retrouver plus proche de ma famille à ce moment-là. Et ce qui est assez intéressant avec Amazon, c'est que les mobilités internes sont extrêmement faciles. C'est-à-dire mobilité interne entre business, mobilité interne entre géographies. Donc tout simplement, en l'espace de quelques semaines, j'ai pu prendre contact avec beaucoup d'équipes différentes en interne en Europe. Et au final, j'ai décidé en fait de rejoindre une autre partie du business en rentrant en Europe, qui était Amazon Logistics, donc qui est en fait la solution interne de livraison. Donc quand vous commandez en fait sur Amazon dans les marchés en peut-être pas en Australie, mais sur les marchés en Europe et aux US, on a 90% de chances que en fait, ce soit l'entreprise de livraison interne, donc Amazon Logistics, qui vous délivre votre colis. Et en fait, j'ai rejoint l'équipe planification à long terme de Amazon Logistics. Et en fait, j'étais responsable du UK et de l'Irlande. Et l'idée, c'est que je devais planifier sur les 3 à 5 prochaines années le réseau de livraison, c'est-à-dire quel code postaux Amazon allait livrer en direct, avec quel centre de livraison, quelle capacité à chaque fois, donc combien de vannes on a besoin à chaque endroit. Donc vraiment, une planification assez fine, journalière, quel était le volume de livraison qu'on allait attendre et comment en fait on allait résoudre ces livraisons. Et donc j'ai fait ça pendant un an et demi. Et donc, très intéressant, ça m'a permis de découvrir encore un nouveau business. Et ensuite, au bout d'un an et demi, j'avais envie de rechanger de sujet encore. Donc j'ai changé en septembre dernier. Je suis retourné chez AWS, mais sur une autre partie du business, qui est ce que j'avais expliqué un petit peu plus tôt sur mon poste actuel.
Ça, c'est trop cool. Ouais. Il y a beaucoup de. Merci du partage. Il y a beaucoup de similitudes entre Singapour et l'Australie en termes de visa, comme tu l'as dit, en termes de politique de Covid, zéro, pendant un certain moment en tout cas. Je crois que Singapour était plus dur plus longtemps. Alors que nous, ça, c'est un peu. Une fois qu'il y a eu trop de cas, ça, c'était un peu différent. Une dernière question. Alors, je vais la formuler un peu différemment que d'habitude. Mais j'ai déjà vu que tu as fait autant de changements et que tu as notamment eu deux parties, on va dire, pas les plus importantes, mais qui ont plus marqué ta carrière professionnelle en conseil en strat, puis ensuite chez Amazon, AWS/Amazon. Quel conseil tu te donnerais si c'était à refaire ou toi qui commençais ta carrière à ce moment-là en conseil ? Qui pourrait être potentiellement applicable à un jeune qui commence maintenant en conseil, mais quel conseil tu te donneras toi-même ou est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu changerais ?
Rétrospectivement, si je me replace en fait dans l'état d'esprit auquel j'étais, dans lequel j'étais quand j'étais en fin d'études, en fait, je n'ai pas tout de suite commencé en conseil. Ma dernière année, j'ai fait un double diplôme qui s'appelle le Master IREN, qui est un master en économie que j'ai fait en parallèle avec ma troisième année. Et donc, ça m'a déjà permis d'avoir ce double profil business et économie. Et en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Areva, dans les équipes stratégie renouvelables, et j'ai adoré. Malheureusement, c'était 2013 et c'était Fukushima, donc pendant mon stage, le business d'Areva s'est tout de suite moins bien porté et je ne pouvais pas commencer ma carrière chez eux. Donc je pense que comme un petit peu beaucoup d'élèves ingénieurs peut-être à ce stade de leur carrière, à la fois j'avais un petit peu des vagues idées de ce que je voulais faire, je savais que quelque chose m'avait plu, mais je n'étais pas non plus 100% convaincu que ce serait mon chemin de carrière. Et j'ai commencé à postuler en fait, à des postes, on va dire, en stratégie, pas forcément tout de suite en conseil. J'ai regardé un petit peu des postes en stratégie en entreprise. Et en fait, assez rapidement, j'ai eu une opportunité de rejoindre le groupe Crédit Agricole sur une filiale du groupe Crédit Agricole qui, je ne vais pas mentionner là, c'est un business très compliqué, mais qui fait en fait de la banque et du back-office pour les fonds d'investissement. Et voilà, sur un poste un peu stratégie et product management. Et je pense que voilà, à l'époque, je me suis dit, ouais, pourquoi pas essayer. J'ai signé, j'ai commencé. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte, au bout d'un an, un an et demi, que c'était pas ce qui me convenait. Parce que c'était pas le type de sujet qui me convenait. C'était pas un secteur qui me convenait. C'est un secteur où l'innovation est très liée à la réglementation. Donc, c'est pas quelque chose forcément qui me convenait. Je préférais avoir un environnement qui était d'innovation un peu plus libre. Donc, en fait, au bout d'un an et demi, ce qui me semblait court, j'ai décidé de rechanger. En fait, et c'est là que je suis revenu sur l'idée que j'avais eue un peu plus tôt. J'avais peut-être écarté à un moment, justement, par peur de ce côté charge de travail importante, environnement assez challenging. Donc, je suis revenu sur mon idée de conseil en stratégie. C'est comme ça que j'ai commencé en conseil en stratégie. Et je pense que rétrospectivement, plusieurs enseignements que je tire de cette partie de ma carrière. D'une part, quand on sort d'école, on a peut-être aussi, on est un peu partagé entre ce « je veux bien choisir » et voilà, j'ai quand même envie. Je suis en étude depuis, je sais pas comment, enfin, depuis quelques années. J'ai un peu envie de gagner de l'argent bientôt. Donc, on a un petit peu tendance à faire ce trade-off qui est de bon, moi j'ai une opportunité, je vais essayer parce que ça me permet de commencer assez rapidement et on met l'aspect financier de côté. Je pense que rétrospectivement, j'aurais peut-être attendu un peu et pris un peu plus de recul sur ma prise de décision sur mon premier poste. Cela dit, j'aurais peut-être, d'ailleurs, je pense que idéalement, j'aurais peut-être dû commencer en conseil en stratégie dès la sortie d'école. Cela dit, je ne suis pas non plus mécontent en fait, du parcours que j'ai fait parce que je pense aussi que avoir différentes expériences et avoir des expériences qui ne nous ont pas convenu, qui ne nous ont pas plu, paradoxalement, peut aider beaucoup plus à comprendre ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que par élimination, après, j'étais beaucoup plus clair. Je voyais une description de job, je savais tout de suite, en fait, qu'est-ce qui me plairait pas, et ça m'a permis, en fait, d'être beaucoup plus ciblé sur ma recherche. Donc, ça va peut-être sembler un petit peu paradoxal ce que je vais dire, mais n'hésitez pas, je pense, à prendre un petit peu de recul et à vraiment vous questionner avant d'accepter une offre d'emploi si vous le faites pour les bonnes raisons. Est-ce que c'est simplement parce que c'est quelque chose qu'on m'a proposé là, c'est un quick win, ça va me permettre en fait d'avoir un salaire assez rapidement, donc j'y vais. Ça peut être valide hein, comme raisonnement, je l'ai fait, donc voilà. Donc essayez quand même de prendre le temps de bien vous poser une question, mais à l'inverse, n'ayez pas non plus peur, on va dire, de vous lancer dans quelque chose qui ne vous plaît pas. Bien si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. On change, vous pouvez changer au bout de quelques mois. Je pense que assez vite, vous saurez comprendre si quelque chose vous convient ou pas. Et assez vite, vous saurez rebondir sur un autre type de rôle. Et je pense que peut-être qu'il y a quelques années, c'était un petit peu mal vu, peut-être de changer rapidement si quelque chose ne nous convenait pas. Je pense que maintenant, on a la chance peut-être d'être dans un environnement et un petit peu une évolution des mentalités sur lequel c'est accepté le fait qu'on puisse vouloir pivoter sa carrière. Donc voilà, prenez toutes les expériences, les bonnes et les mauvaises, et sachez à partir de là construire le chemin qui vous intéresse, quoi. Je pense que c'est un peu ça mon conseil.
Non, c'est trop cool, c'est super positif, et je pense justement que ton profil montre et ton expérience montre que c'est possible de faire des expériences forcément courtes. Comme tu l'as dit, je pense aussi que les mentalités ont changé et qu'ensuite, tant que tu en prends les enseignements, comme tu l'as dit d'ailleurs au début par rapport au projet, quand tu es chez Amazon, tu peux tenter, et puis même si ça échoue, c'est pas grave, tu as appris des choses et que tu peux l'expliquer. C'est pareil dans la carrière. Prends l'opportunité et si tu te rends compte que ça ne te plaît pas, tu vas te rendre compte des raisons. Et comme tu l'as dit, derrière, ça va être beaucoup plus ciblé. Et tu peux quand même, même si tu quittes un poste au bout de 3, 4, 6 mois, et je l'ai vu dans d'autres personnes aussi, dans d'autres profils, après avoir une super carrière, faire des métiers qui te plaisent et comme toi, partir à Singapour où tu as toujours voulu partir, faire du conseil en strat, faire des métiers qui t'intéressent, qui changent. Et je trouve que c'est un super message positif. Donc écoute, merci beaucoup Nico. On va repartir en off, mais merci beaucoup pour ton temps et tout ton partage.
Merci Thomas.